sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Bienvenue pour ce premier épisode du Cyclocast, le podcast qui parle de vélo au quotidien. Voilà, nous sommes trois Lyonnais qui utilisons notre vélo tous les jours pour aller travailler ou pour aller faire les courses. Et donc nous allons vous parler un petit peu de notre expérience et puis de l'actualité de ce milieu qui est en pleine expansion. Je vais tout d'abord laisser la parole à Mogor qui va se présenter. À toi Mogor, honneur aux dames.
Bonsoir et bienvenue dans Cyclocast. Je suis Mogor, je roule presque tous les jours, plutôt en semaine que le week-end. Actuellement, je roule sur un motobécane plus vieux que moi. Je ne sais pas si je dois dire mon âge, mais plus vieux que moi et avec un cintre papillon, ce qui intrigue beaucoup les gens.
Et ce qui fait hurler tous les puristes motobécanes.
Et tous les puristes motobécanes sont atterrés. Je n'ose pas mettre de photos de vélo de mon vélo sur internet, de peur de m'attirer les foudres des.
Je crois qu'il y a quelques copains d'ailleurs qui ont dit qu'ils allaient te lancer la brigade du bon goût aux fesses à cause de ça.
C'est vrai, bah écoute, je les attends. Je n'ai pas peur pour mes fesses. Voilà. Non, à part tout ça, eh ben, je suis dans les compères là qu'on est. Je suis la moins technique. Moi, je m'intéresse vraiment au côté humain, sociologique du vélo. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et donc, par contre, au niveau technique, on a aussi Grincheux qui est avec nous ce soir.
Bonsoir. Donc moi, je suis Grincheux. Je roule tous les jours à vélo avec un Bullitt, donc un vélo cargo pour transporter les enfants, la bière, les courses. Et pour faire chier les Raymond,
il se fait souvent interrompre par les copains qui ouvrent des canettes à côté de lui.
Un petit point vocabulaire, qu'est-ce qu'un Raymond ?
Un Raymond, à l'origine un Raymond Boyau, exactement. Donc c'est un cycliste sportif plutôt du dimanche qui ne conçoit pas le vélo autrement que sur un vélo de course avec en lycra et en peloton.
Merci Grincheux.
Donc je suis le plus utilitaire peut-être des trois, de par mon vélo.
Je t'arrête tout de suite, moi j'ai une remorque.
C'est vrai. Ça m'arrive de mettre aussi une remorque derrière. Mais moins souvent que toi. D'abord parce que j'en ai moins besoin vu mon vélo.
Ouais, mais dans ces cas-là, tu mets un panneau convoi exceptionnel derrière.
Aussi. Donc, je roule tous les jours, d'abord pour aller bosser, mais également le week-end, les vacances, les randos entre copains et en famille. Et ce qui m'amène à faire pas mal de kilomètres avec mon gros vélo. Et puis, les prochains trucs, j'en parlerai plus tard. Et donc, je vous laisse avec notre maître de cérémonie de ce soir, Prokylus.
Et voilà, moi c'est Prok, donc vous connaissez ma voix, mais vous ne me connaissez pas encore. Donc, pour ma part, j'ai 31 ans. Je roule actuellement sur un Giant CS3, qui est un hybride ville et VTC. J'ai en préparation un Surly Karate Monkey, et donc pour ma part, je me suis entièrement converti au vélo, puisque ma voiture a rendu l'âme il y a quelques mois, et elle est partie à la benne, et actuellement, je fais tout sur deux roues et à la force des jambes. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par quelques petites news. Donc, si mes camarades sont d'accord, je vais ouvrir le bal. Simplement pour vous pas. Pardon ?
Eh bien, allons-y.
Alors, donc, je vais vous parler d'une. Je vais vous parler. Oui, on est aussi un peu en train de tester les jingles. Je vais vous parler d'une news cinéma. Donc, vous parlez de la sortie d'un film qui s'appelle De toutes nos forces avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy et qui est un film tiré d'un fait réel, d'une histoire vraie, qui est l'histoire de Dick et Rick Hoyt qui sont un père et un fils qui ont décidé de faire ensemble des marathons puis ensuite des triathlons. La petite particularité, pourquoi ils le font ensemble, c'est parce que le fils est gravement handicapé et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. C'était un petit peu leur manière de communiquer et de, comment dire, d'avoir une activité en commun, de se rapprocher. Cette histoire, elle a fait le tour d'un petit peu de la sphère internet.
En particulier du monde cycliste.
Pourquoi du monde cycliste? Parce que après avoir fait quelques marathons, bien évidemment, ils se sont mis au triathlon. Et donc, dans le triathlon, comme vous le savez, la dernière épreuve est une épreuve cycliste. Voilà. Donc, c'est une histoire qui est assez émouvante. Donc, je vous invite à aller le voir. La bande-annonce montre, a priori, un film très très juste et très bien interprété. Voilà. Grincheux, tu avais une news derrière, je crois.
Tout à fait. Donc, je suis pas au point sur mes jingles. Donc, le gouvernement vient d'annoncer des 25 mesures pour encourager l'usage du vélo. Donc, c'est tout frais puisque ça date de mercredi ou jeudi, donc de cette semaine. Le ministre des Transports, Philippe Cuvillier, vient d'annoncer 25 mesures concrètes pour améliorer la sécurité des cyclistes et le confort. Et parmi lesquelles, plein de mesures sur la mise en place de plus d'axes cyclistes, plus de voies protégées, une augmentation des PV sur les stationnements sur les pistes cyclables qui vont passer de 35 à 135 euros.
Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois, j'étais pas au courant.
Super dissuasif, effectivement.
Oui, c'est très bien.
Bon, il reste plus qu'à les appliquer parce que les PV sur les bandes cyclables, j'en ai pas vu des masses.
Est-ce que tu sais si c'est une proposition de loi ou
ça,
si
c'est... Non, ça c'est pas une proposition de loi, ça c'est a priori c'est passé.
Ah, ça c'est très très bien. Ok, merci.
De ce que j'en ai compris, c'est passé. Et dans les autres choses qui sont très intéressantes, alors là c'est pas encore validé, mais il va y avoir pour l'instant une phase pilote qui va être mise en place pour le remboursement de l'indemnité kilométrique vélo. Donc à l'image des remboursements kilométriques pour les déplacements en voiture, là un certain nombre de sociétés vont participer à cet exercice pilote.
Je me permets d'interrompre Grincheux juste pour signaler que l'indemnité kilométrique vélo, elle existe dans certains pays européens et depuis quelques temps.
Tout à fait.
On en avait déjà parlé ensemble. Il faut savoir que en Belgique, on dépasse les 25 centimes d'indemnité par kilomètre, et c'est en Autriche où l'indemnité est, je crois, au-dessus de 30 centimes et monte à 46 centimes après le dixième kilomètre.
Oui, mais là, ça compte pas. Vu les dénivelés qu'ils ont, forcément, ils sont obligés de...
il faut rentabiliser le VAE.
Non. Donc, plus sérieusement, donc là, on parle d'une indemnité basée sur 25 centimes du kilomètre. Donc un certain nombre d'entreprises comme L'Oréal, c'est la seule que je vois d'ailleurs noter en fait, vont participer à cette phase pilote. Alors il faut savoir qu'en France actuellement il y a déjà tout l'arsenal législatif pour indemniser les entreprises au même titre qu'elles sont indemnisées pour les cartes de transport sur les frais vélo. Mais par contre il n'y a actuellement aucune obligation et aucun barème qui ne soit proposé. Donc c'est chaque entreprise qui veut mettre ça en place va décider de son propre barème, soit une enveloppe globale annuelle, soit un barème kilométrique, soit avec des plafonds ou non. C'est totalement la fête du slip.
Quand tu parles d'indemnisation de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est en fait l'entreprise qui indemnise le salarié et ensuite c'est l'État qui indemnise
l'entreprise donc va prendre en compte des frais de transport vélo, donc va rembourser, comme actuellement les titres de transport, les cartes de transport sont remboursées à 50%, mais parce que derrière, sur les frais que présente l'employé, l'entreprise peut se faire rembourser intégralement 50% des frais de transport.
D'accord, je comprends.
Donc, bien. De la même façon, si l'entreprise décide de rembourser, on va dire, 25 centimes du kilomètre, puisque c'est ce qui est proposé à ses employés qui viennent en vélo, moyennant un calcul de la distance du domicile à l'entreprise,
selon le même barème, l'entreprise, donc ces 25 centimes, lui seront par des exonérations de taxes et compagnie, lui seront remboursés également.
D'accord, je te remercie. Ok.
Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle puisque c'est très chose que toutes les associations cyclistes réclament depuis des années, que le vélo soit pris en compte comme un moyen de transport à part entière et donc remboursé comme tel, parce que sur un usage au quotidien, le vélo ça a des frais. Quand on dépasse la balade tranquille du week-end, deux fois dans l'année.
À propos, 25 centimes, ça représente combien au final par mois, par exemple ?
Écoute, on peut faire le calcul en direct. si tu veux, je me prête à l'expérience. Si on prend 25 centimes du kilomètre, moi je fais 7 kilomètres par jour. Donc, aller-retour, oui, aller-retour. Donc, 6 fois 25, 25, 50, ça fait, si je dis pas de bêtises.
Je peux te faire le calcul. Hein.
Vas-y, fais le calcul.
J'ai... C'est donc 7 km par jour.
Je suis pas chiffre. Hein.
Donc, 7 km.
Ça fait en gros 140 km. Non.
25 et 25, ça fait 2.
Et c'est sur 20 jours.
50.
35
1,75 par jour sur 5 jours par semaine, ça fait 5.
Ouais, donc voilà, on est à peu près à 35 euros par mois.
Pour toi qui fais 6 km par jour.
7, s'il te plaît.
Excuse-moi.
Oui, donc oui.
7 km par jour.
Ça revient à 30-40
km par mois.
Mm-hmm. 30-40 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable du tout, ça me paye une roue.
M'en parle pas, je dois acheter des pneus.
Oui, je t'ai dit que je t'en prêtais des pneus.
Très bien. Donc c'est pas des sommes délirantes.
C'est pas exorbitant.
Par rapport à ceux qui prennent les transports en commun, par exemple.
Voilà, c'est pas délirant pour l'entreprise, mais pour le quotidien du salarié, c'est quelque chose qui peut bien changer la donne.
Moi, ça me semble un grand pas par rapport simplement à l'égalité entre les cyclistes et les automobilistes, puisque les automobilistes sont déjà indemnisés pour leurs déplacements. Donc voilà. Alors, autre news, je vais simplement aborder une petite news qui date de fin janvier. Nous avons Robert Marchand, qui est notre doyen du vélo, qui à 102 ans a battu un record, puisque il a battu le record de l'heure à vélo. Il a roulé pendant une heure à vélo à une moyenne de 27 km/h. Voilà, comme quoi le vélo, on peut en faire jusqu'au soir de sa vie. Alors, même très très tard.
Je crois que tu mélanges les pinceaux. C'est pas sur 100 km.
J'ai dit 100 km. Non, si. J'ai dit c'est le record du kilomètre en une heure.
Il me semblait que c'était le record de.
Bon, et donc qu'est-ce que c'est en vrai?
Mais bon, il faut signaler que c'est son propre record.
C'est son propre record qu'il a battu. Concrètement, Robert Marchand, il est connu pour être le doyen du vélo. Il a une catégorie auprès de la Fédération de cyclisme qui a été ouverte rien que pour lui, qui a une catégorie des plus de 100 ans. Et ce monsieur, donc, il a roulé sur une heure. La moyenne, c'était 27 km/h. C'est une moyenne qu'il a tenue durant cette heure de vélo. Et il a battu le précédent record qu'il détenait déjà, qui était aux alentours de 25 km/h par là. Voilà. Donc bon, je trouve que c'est une très très bonne démonstration pour la plupart des gens qui disent « Ah non, mais moi je suis incapable de faire du vélo pour aller au travail, faire 5 km. »
À mon âge, tu comprends.
Voilà, à mon âge, tu comprends, j'ai 40 ans, je suis rouillé, j'ai des problèmes de dos, Robert Marchand, lui, il a aussi des problèmes de santé, mais il réussit quand même à faire du vélo. Voilà, tu avais une autre news, je crois, Grincheux ?
Oui, tout à fait.
Alors, je me permets d'intervenir parce que j'ai une petite news
vas-y.
À Calais et je pense qu'elle sera parfaite juste avant la tienne. Il s'agit d'une nouveauté technique. Donc, quand on veut poser une chambre à air sur sa jante, on met des fonds de jante.
Si vous entendez un bruit bizarre, il y a en fait le chat qui est en train de passer derrière.
vous me dites si je dis des âneries. Donc on met un fond de jante pour protéger la chambre à air du métal. Et voilà quelque chose de très qui plaira aux fans de légèreté, n'est-ce pas ? Les cyclistes ultra légers, puisque
elle me regarde fixement en disant ça.
Puisque il s'agit du vélo plug.
Voilà, moi j'ai plutôt imaginé sur le coup que ça se plaçait sur une tige de sel plutôt que sur des roues, mais bon,
pas du tout.
C'est mon esprit de mon esprit malsain.
Ce n'est pas moi. Donc le vélo plug, il s'agit un peu, on dirait un peu des petits clips. Ça ressemble à des bouchons ou à des caches vis, comme il y a sur certains meubles.
Un petit capuchon de caoutchouc.
Ouais, c'est ça. Et ça se met dans les trous de jante pour éviter le fond de jante.
Les trous de tête de rayon, pour être plus précis.
Oui, bon, donc, voilà.
Mais tu nous avais prévenu que c'était pas toi la plus technique.
Exactement. Et il y a une petite indication sur la news que j'ai, qui est dans un magazine papier, qu'un fond de jante classique, c'est 42 grammes. Et là, l'ensemble des clips utilisés, enfin des véloplugs utilisés, c'est 6 grammes. Donc attention.
Mais du coup ça m'intéresse parce que je suis en train de monter les roues de mon Surly et je pense que je vais m'y pencher. Je vais te piquer ton magazine avant de partir ce soir.
Et je vais me permettre de citer mon magazine. Attendez.
Tu montes pas en tubeless ?
Non, je monte pas en tubeless.
Je cite le magazine. Une fois en place, ils sont là pour des années, au contraire des fonds de jante classiques que l'on est censé changer tous les ans. Voilà.
Donc là il y a deux personnes qui sont en train de ricaner bassement parce que leurs fonds de jante ont plusieurs années.
Ils ont dit censé changer tous les ans. Mais donc du coup c'est prévu pour ne pas être changé tous les ans. Donc vous êtes encore plus l'esprit tranquille, vous voyez.
Non mais je note, effectivement.
Voilà,
je
donc
note.
Je voulais juste caler cette petite news avant
Merci beaucoup Mogor, c'est effectivement intéressant.
Celle de Grincheux.
Donc ma deuxième news, c'est ça me concerne moi directement, puisque le printemps arrive, les virées vélo et rando vont se multiplier. Et pour ma part, j'organise un truc à la con, il faut le dire, il faut être honnête.
Oh, pas tellement.
J'ai décidé d'aller gravir le Ventoux avec mon gros vélo, avec mon Bullitt. Et j'ai décidé de ne pas y aller tout seul. Enfin, j'ai proposé de ne pas y aller tout seul, et donc on va pour l'instant être au minimum trois Bullitt. Alors j'attends encore la confirmation. Peut-être Hans, le patron de la marque qui fabrique les Bullitt, sera également de la partie. Et puis d'autres. Après, j'ouvrirai la balade à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Plus on est de Bullitt, plus on sera de fous.
Mais est-ce que tu as dit là la destination et le trajet, ce que vous allez faire exactement? Tu l'as pas dit.
Je l'ai pas dit.
Voilà, c'est ça le plus important.
Oui, en effet.
Attention, mesdames et messieurs.
Donc,
que vas-tu faire en Bullitt?
Nous allons faire une petite montée
mignonnette
qui a son heure de gloire régulièrement.
Oui, c'est une montée mythique. Hein.
Une montée mythique qui s'appelle le Ventoux.
Voilà.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas,
le Ventoux en Bullitt.
Voilà, c'est 21 km en montant depuis le village de Bédouin. On part d'une altitude de 300 mètres et nous allons jusqu'à 1912 mètres en haut du Mont Serein, aussi connu comme Mont Ventoux.
Le solitaire de Provence, le toit de mon beau pays.
Voilà, donc un point culminant à plus de 1900 mètres, donc de toute façon, quelle que soit la saison, la météo est une grande inconnue, parce que même au plus fort de l'été, 1900 mètres, on peut avoir du très mauvais temps en haut. Si les conditions sont vraiment trop catastrophiques, on ne partira pas, c'est bien entendu. Mais bah, l'idée, c'est quand même d'arriver en haut. Nous, on fera ça le dimanche de Pâques, donc le 20 avril, je crois. Oui, c'est ça, le 20 avril. Et puis, bah, vu que c'est pas drôle de faire ça comme ça, juste ça, moi je vais y aller directement en train avec le Bullitt dans le train. Parce que.
Qu'un Bullitt, ça tient difficilement sur une voiture.
ça tient difficilement dans un train aussi. Mais voilà. Et donc, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez venir vous joindre à nous à Bullitt ou sans, vous êtes les bienvenus. Mais par contre, si vous êtes avec un vélo en plastique, en carbone, vous aurez le temps de le faire deux fois le temps qu'on grimpe. Pour information, mon Bullitt au quotidien fait 32 kilos. Et pour l'événement, je vais l'alléger d'un certain nombre d'accessoires et j'ai espoir de descendre vers les 24 kilos.
Ce qui devrait à peu près correspondre à un Vélov ou un Vélib.
Ouais.
Voilà. Ben écoutez, moi je vais clore un petit peu les news en vous parlant donc d'un événement lyonnais en soi, mais qui a un intérêt certain pour tous les cyclistes quotidiens. Il s'agit en fait du Challenge Chronovalve. Donc il faut savoir que l'association, le collectif Valve, qui fait partie de l'association La Ville à Vélo, dont, je l'avoue, je suis un des administrateurs, donc le collectif Valve a organisé un challenge de déplacement urbain. Concrètement, ils ont aligné plusieurs participants sur différents modes de transport, la voiture, les transports en commun, le vélo. La première édition avait vu ces trois modes de déplacement en concurrence, et la conclusion avait été que le vélo arrivait en tête très largement, suivi par les personnes qui se déplaçaient en transport en commun, avant de voir la voiture arriver plus d'une demi-heure après le vélo. Voilà. Et le challenge a été reconduit récemment, il y a 10 jours, je dirais.
Oui, je crois. Tu confirmes? Enfin, je me souviens plus des dates exactes, mais
c'est dans ces eaux-là. Il y a eu d'autres catégories qui se sont alignées dessus. Entre autres, il faut quand même le signaler, la moto. Et voilà, la moto et les rollers. Donc les rollers sont arrivés, je crois, juste après le vélo, qui n'a eu que la deuxième place, puisque la moto est arrivée avant. Certains ont voulu le taire, mais il faut quand même être honnête. La moto est un mode de déplacement très rapide aussi en ville. Le vélo n'est pas arrivé beaucoup plus tard derrière, et puis surtout, les cyclistes, eux, ne sont pas obligés de payer de l'essence. Voilà, il faut noter également que les personnes qui ont utilisé les transports en commun ont également été beaucoup plus rapides, puisque depuis la ligne B du métro a été ouverte, et donc en fait sur le trajet qu'ils ont effectué, qui allait de la mairie d'Oullins, qui est une commune située dans la banlieue lyonnaise, dans le sud-ouest lyonnais, qui allait donc de la mairie de Oullins jusque dans le centre-ville de Lyon. Voilà. Mais donc
en fait, c'était justement là l'intérêt de faire ce deuxième épisode de Chronovalve, c'est que depuis le premier épisode, il y a le métro qui a été ouvert, et donc ça avait lancé le débat. Est-ce que maintenant qu'il y a le métro, ça serait pas les résultats seraient pas inversés?
Voilà. Et donc en fait, non. Le vélo est toujours plus rapide. Voilà, voilà. On va peut-être parler une petite rubrique matos.
Allons-y.
Donc j'ai fait une petite recherche, une petite liste des derniers matos qui venaient de sortir, des choses plus ou moins utiles. Je suis tombé entre autres récemment sur un vélo qui m'avait semblé rigolo, qui s'appelle le sandwich bike. C'est un concept allemand, c'est un vélo entièrement en bois.
Ah, je croyais qu'on mangeait dessus. Ça m'intéressait pas mal du coup.
Moi je le voyais en pain de mie avec une tranche de pain, une tranche de
non,
jambon.
Ça aurait été le burger bike. Ah oui, le...
Hansel et Gretel. Hansel et Gretel cyclistes, ils mangent leur vélo. Non, c'est un.
C'est bon.
Yam yam.
Mangez-en.
Donc, non, le sandwich bike, me demandez pas pourquoi sandwich. Je présume que c'est lié à la composition des tubes du cadre.
Parce que c'est du contreplaqué, donc c'est du bois en sandwich.
C'est ça, c'est du bois en sandwich. Donc la particularité de ce vélo, donc bien évidemment, il s'achète en ligne et il est expédié donc en emballage plat. C'était précisé sur le site. Donc c'est un bois traité, fabriqué par une firme allemande, et donc il se monte à la maison. Un vélo avec une transmission en single speed Shimano et un frein à rétropédalage. Donc déjà c'est un vélo qui n'est pas homologué en France, puisque il n'y a dans ces cas-là qu'un seul frein, chose qui m'a un petit peu rebuté. Je pensais en fait en commander un pour rigoler, entre nous trois, juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis en fait quand j'ai vu le prix, en fait, j'ai un peu déchanté. Je pensais que c'était un vélo qui valait 3 francs 6 sous. Et en fait, ça vaut 800 euros purée de... Bref, je vais rester poli. Donc, pour parler de ce vélo, ma conclusion, c'est que c'est quelque chose de très très cher pour le simple plaisir de rouler sur du bois. On a déjà vu des vélos avec des cadres en bois, entre autres des cadres en bambou, par exemple chez Biomega, qui ont en plus, eux, ont une transmission à catène, pour le coup une transmission un peu originale puisqu'elle ne passe pas par une chaîne. Et puis, on en trouve également chez Calfi Design, qui, eux, ont au moins l'avantage de présenter un achat solidaire, puisque ce sont des cadres fabriqués en Ouganda. Voilà, donc en bref, le sandwich bike, une très mauvaise idée. Voilà, quelqu'un avait quelques petits matos à présenter ou pas ?
Alors moi je suis tombé l'autre jour sur un concept très intéressant. Pour tous les cyclo-randonneurs, la remorque tente de camping, donc en gros la caravane du vélo.
Ah oui, une espèce de caravane pliante, c'est voilà, un truc qui fait pliante. 30 ou 40 kilos je crois.
J'ose même pas imaginer le poids du bestiau.
30 avec... ou 40 kilos ?
Ouais, le machin il fait...
Non mais à ce stade, vaut mieux emmener des enfants avec toi, quoi, ils montent la tente.
Enfin, ah oui, carrément, vois, c'est ça.
Fabrique ta caravane.
Pour la stabilité à l'arrêt, il y a carrément deux essieux.
Ouais, il y a 4 roues sur l'engin, quoi.
C'est monstrueux.
Attendez, j'ai pas compris. On essaye de tracter une voiture ou un quad ?
Non, une caravane, tout simplement.
Ah, une caravane.
T'imagines une caravane pliante, c'est la même chose, mais format vélo.
Étrange. Voilà.
Au niveau matos, je ne pouvais pas venir pour ce premier épisode sans vous parler d'un objet absolument indispensable, magnifique, fantastique, le fameux cyclocintre. Il faut savoir que pour plus ou moins une centaine d'euros, vous pouvez faire l'acquisition de ce superbe objet qui est une espèce de barre qui se fixe sur la tige de selle et qui vous permet de suspendre des vêtements, et plus spécifiquement par exemple des costumes, ou qui peut vous servir également pour accrocher une voile. Et j'ai pensé que ça avait tout à fait sa place ici. C'est un objet qui est lourd, cher et inutile. Parce qu'en fait, un costard, ça peut se plier. Et puis ça va considérablement augmenter le poids de votre vélo. Et surtout, la prise au vent doit être monstrueuse. Voilà.
Et la question, c'est est-ce qu'on doit avoir le look de la photo de présentation pour pouvoir utiliser ça en plus ?
Je comprends pas ce que tu veux dire par là.
Dans la photo de présentation, le mec fait très bobo du 16e.
Je m'étais dit que quand je parlerais de ce truc-là, je ne prononcerais pas le mot. Mais oui, c'est typiquement ce genre d'objet. Pourquoi je dis qu'il sert à rien, c'est parce que ça peut tout à fait passer sur.
J'attends de voir le type dans la présentation, parce que là, on me met sous le nez des images. Mais j'attends de voir la dégaine de la personne dont on parle.
Je laisse Grincheux te le chercher.
C'était quoi le nom du...
C'est le cyclocintre. Le cyclo comme cyclo, cintre. Et puis cintre. Pourquoi je dis que c'est inutile ?
Comme un guidon ?
Parce que c'est vrai que la sacoche, c'est tout aussi pratique. On peut plier un costume dans la sacoche. Et si on veut éviter...
Oh, plier un costume, mais ça va pas la tête.
Mais dans ces cas-là, tu utilises une pince à pantalon. Et dans tous les cas, ton système, tu peux l'installer sur un porte-bagages. Le principal défaut du cyclocintre, c'est que c'est quelque chose qui est parti du principe qu'on pouvait le fixer. Le projet est parti du fait qu'on pouvait le fixer sur la tige de selle. Mais c'est une hérésie, quoi. C'est vraiment... On voit vraiment que c'est un objet qui est destiné à être... fixé sur un vélo justement, donc de bobo, c'est-à-dire un vélo qui ne peut pas accueillir un porte-bagages. Or, quand on a des choses à porter, le porte-bagages reste essentiel.
Alors, je t'arrête tout de suite, j'ai la photo sous les yeux de la personne ayant équipé, enfin, une photo de quelqu'un. Bref, il y a un porte-bagages, le type a un vélo, un genre de...
De VTC.
De VTC décoré comme un fixie, hein, sans vouloir faire du snobisme. Et il a un porte-paquet qui, évidemment, est utilisable pour mettre quelque chose d'assez plat, du coup, puisque le porte-costard commence par un tube plat au-dessus du porte-bagage. Enfin, en fait, il faut que vous alliez voir cyclocintre. Ça sera plus explicite pour vous. Par contre, c'est pas mal. Ça fait fanion, un peu comme pour les vélos couchés. Donc, le mieux, c'est un costard rouge.
Voilà, c'est ça. Ou fluo, c'est l'idéal.
Ou mettre son gilet jaune comme ça.
réservé à Karl Lagerfeld.
Voilà.
Mais oui.
Non, c'est-à-dire que je peux comprendre en fait le concept de vouloir fabriquer un objet qui permet de porter un costume qu'on va porter au travail, mais pour moi le gros point faible de cet objet, c'est qu'il se fixe sur la tige de selle, et je pense qu'on aurait dû calculer un système qui se fixe sur un
porte-bagages. Pour moi, le gros point faible, c'est que même si on envisage peut-être une housse contre la pluie, c'est que là il prend le vent, enfin même sans rouler très vite, donc il se froisse.
Ce genre de gaz d'échappement.
Il se déforme, quoi.
Ce genre de personnes ne prennent pas leur vélo quand il pleut, donc ils n'ont pas besoin de housse contre la pluie.
Ah oui, je comprends l'idée, je comprends l'idée. En tout cas, la personne qui présente ça sur la photo, un espèce de bermuda assez court, mi-cuisse bleue, marine.
C'est bien un bobo.
Ainsi qu'une chemisette style polo, rose comme...
Avec des patchs de coudes.
Rose comme Barbie, avec des patchs de coudes, mais tu apprendras que c'est la mode en ce moment.
Oui, c'est, je
et
sais.
Et une ceinture
au bermuda. Tu sais aussi que je ne suis pas
on
ne
voit
la
pas
mode.
Les chaussures, je suis un peu déçu. On ne voit pas ses chaussures. Voilà. J'espère que c'est des chaussures compatibles avec le costard, ou... parce que c'est un problème aussi.
Bah, bien sûr.
Et le costard est beige, voilà. Vous savez tout. Et il n'a pas de casque.
Ah non, non, c'est pas, casque, c'est pas bon pour sa mise en pli.
Bah bien sûr, ça déforme le coiffure. Troisième petit objet dans ma revue matos. Je suis tombé également sur, mais ça c'est connu depuis longue date, et je trouve que cet objet est assez mignon. C'est le porte-parapluie, ce qu'on appelle le Poppins. Concrètement, il s'agit en fait d'une petite pince que l'on fixe sur le porte-bagages, sur le guidon, et sur lequel on va accrocher un parapluie qui va vous protéger des intempéries lorsque vous roulez. Vous pensiez que j'allais cracher mon venin dessus, mais en fait pas du tout, parce que ça me semble être un objet assez utile, et puis dans tous les cas qui lui ne va pas réclamer un investissement monstrueux, puisque ça coûte 20 ou 30 euros, et surtout ça colle bien avec le style que pourrait avec le style qu'on peut trouver sur un vélo de ville typé hollandais. Voilà.
Alors, pour un point info, j'ai croisé l'autre soir une cycliste qui était équipée d'un Poppins, mais on n'a pas été arrêté au feu suffisamment longtemps pour que j'ose lui poser la question, savoir si ça faisait pas trop une prise au vent.
Oui. Et si avec le vent, l'eau qui t'arrive dans la figure par le vent, du coup, ne passe pas sous le parapluie?
C'est une très bonne question. On avait prévu de monter voir une amie en Auvergne, tous les trois. Je pense qu'on pourrait lui poser la question puisqu'elle en a un.
Ah oui, c'est vrai qu'elle en a un, elle.
Très bien. L'enquête est ouverte sur le Poppins.
Sur le Poppins.
Est-ce que c'est bien?
Je pense que ce sera l'occasion d'un podcast.
Un numéro spécial.
Numéro spécial, le Poppins.
Très bien.
Voilà. Et puis alors, le dernier petit article, mais le dernier petite pièce de matos sur laquelle je suis tombé, j'ai découvert sur un site de personnalisation du vélo qu'il existait maintenant des moumoutes de sel. L'heure est grave, les jackies tuning envahissent le monde du vélo. Voilà.
Des moumoutes de sel,
un cours au sel en moumoute.
Ah, parce que je pensais que si peut-être tu étais en short l'été, ça faisait comme si t'avais des poils, bref.
Et
ah bah t'as le persil qui dépasse du cabas, oh.
C'est ça. C'est ça, je pense.
Et pour les villes naturistes ou les endroits naturistes.
Attends, non, mais à ce compte-là, je signe presque tout de suite. C'est-à-dire, tu portes une jupe et tout, les mecs ils te reluquent, hop, en fait, t'as la selle moumoute là. Ça, au moins, ils seront pas déçus du voyage. Hein.
Moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est que cet objet c'était une fausse bonne idée parce qu'en fait. Au niveau du confort, on sait tous aujourd'hui qu'il y a une différence entre avoir une selle souple et avoir une selle molle. Et ensuite, surtout, j'imagine si ça prend la
flotte. Que tu en parles.
Surtout, j'imagine si ça prend la flotte, ça doit se gorger d'eau.
Effectivement.
Un vrai bonheur.
Voilà.
Tu laisses ton vélo gars, tu peux mettre un petit plastique dessus, on fait ça aussi.
Ah oui, mais alors si tu mets un couvre-sel sur le couvre-sel, c'est quand même un peu contre-productif.
Ah oui, ça couvre-sel.
et surtout, je me disais qu'en été, ça doit tenir sacrément chaud, en fait. Voilà, donc c'était ma petite rubrique matos, j'avais préparé ça depuis longue date, je voulais vous en parler, c'était une petite chose qui avait retenu mon attention dans mes pérégrinations internet concernant le vélo, voilà.
Eh bien, merci pour ces superbes trouvailles. Et je crois que maintenant la parole est à Mogor.
Hein, quoi ? Attendez, je suis pas prête. Vous êtes vraiment, vraiment affreux.
Ah bah attends, c'est pas grave. C'est toi qui a fait le programme, hein, je te rappelle.
Qu'est-ce qui a écrit déroulé là ?
C'est moi ? C'est moi qui fais ça ? Ah oui, d'accord. Très bien.
Pim.
Bon. Ben, non, mais fait,
on peut meubler un petit peu si tu veux, hein, y a pas de souci si t'es pas prête.
Non, mais je suis presque prête et surtout je pense que je reviendrai sur le sujet plusieurs fois de suite en fait. Tout simplement parce que.
Non, c'est parce que t'as pas fini de manger, c'est ça ?
Oui, alors ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont déjà côtoyé à table, savent que je suis une. J'ai l'impression que Brock me fait des signes, mais je crois.
Non,
que
pas non. du tout. En fait, j'ai passé une partie de ma soirée avant de venir à monter une roue, ce qui fait que j'ai mal au pouce et je me fais craquer les articulations.
Du coup, j'ai l'impression qu'il fait des signes pour me dire parle plus vite, parle plus lentement. Bref, peu importe. Donc, j'ai plutôt un bon coup de fourchette. J'aime manger, j'apprécie ça. Et du coup, je me suis demandé, quand on fait du vélo au quotidien.
Il faut être honnête. Tu es également une très bonne cuisinière.
Merci, merci.
Avant de commencer l'enregistrement, elle nous a fait des pizzas, ça déchirait tout.
Arrête, tu n'aurais pas précisé, on aurait cru que j'avais pu faire un plat incroyable, là tout de suite. Je suis pas sûre que la catégorie...
Ah bah les pizzas maison aussi, c'est très, très bonne.
Donc,
bref,
pour résumer, ça a à voir avec ce que je voulais aborder avec vous ce soir, parce que quand on fait du vélo, on fait de l'exercice, du coup ça ouvre un peu l'appétit. L'autre jour, j'ai installé sur mon smartphone une application de tracker de calories où, quand on rentre les aliments qu'on mange, il nous dit combien de calories ça fait dans la journée.
Ah, je croyais que ton smartphone t'envoyait une décharge électrique à chaque fois que tu manges une sucrerie.
Non, c'est vraiment une application dédiée à ça. Et en fait, c'est censé être pour des trucs de régime. Donc au début, tu dis quel poids, quelle taille tu fais, quel poids tu veux faire, dans combien de temps. Et cette application est d'ailleurs assez drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle parce que quand tu lui dis « c'est bon, j'ai fini de rentrer les informations pour la journée », donc tu rentres tout ce que tu as ingéré ainsi que l'exercice physique que tu as fait. Après, tu dis « c'est bon, c'est fini pour la journée », il dit « alors si tu continues comme ça, dans 5 mois, tu feras 125 kilos, par exemple, si c'est une journée un peu riche ». Il extrapole.
Super voilà. Motivant comme truc. Hein.
Non, oui, c'est motivant parce que la journée où tu t'es peut-être un peu, t'as fait plus attention à ton équilibre alimentaire, il dit « ah bah si tu continues comme ça, dans 5 mois tu feras 10 kilos enfin... ».
Arrête de bouffer, grosse vache, sinon tu vas devenir énorme.
Non mais bon, donc ça c'était la petite anecdote. Et l'autre anecdote c'est que pour l'instant j'ai essayé un peu en dilettante, je suis pas très assidue, mais j'ai essayé pendant une petite semaine, non pendant 2 semaines, mais il y a que une semaine de vraiment saisie. Et le seul jour... où il y a eu un équilibre entre l'ingestion que j'ai faite d'aliments et la dépense physique de vélo que j'ai faite, c'est le jour où les Lyonnais impressions, où je suis montée à la Croix-Rousse, en plus de mon vélo taf habituel.
Pour les personnes qui ne sont jamais venues sur Lyon, Lyon est une ville entièrement plate, mais avec au milieu 3 collines. Donc il y a la Duchère tout au nord, au-dessus du 9e arrondissement. Il y a la colline de la Croix-Rousse qui est à cheval sur le 1er et le 4e arrondissement. Et enfin la colline de Fourvière dont tout le monde a entendu parler. Et la Croix-Rousse, il faut bien avouer qu'elle a des pentes sacrément raide et elle fait peur à beaucoup de cyclistes débutants.
Bon, enfin, tout ça pour dire, je suis passé par les S pour les Lyonnais et j'étais en VAE vélo électrique parce que oui, je possède plusieurs vélos, c'est la richesse.
Et tu l'as précisé à ton tracker de
calories ?
Non,
parce que ma batterie m'a lâché au milieu de la pente. Donc finalement, je me suis retrouvé avec un vélo super lourd.
Au final, t'as peut-être même fait plus de, t'as même peut-être non, même alors, plus de calories que
prévu.
Ok,
je reprends. Ça, c'était pour l'anecdote diététique, mais pour ceux qui ça intéresse, je suis monté en VAE par les S. Les S, donc, comme son nom l'indique, ça serpente, un peu en mode montagnard, mais en ville, avec des épingles à cheveux. Et au milieu de la montée, ma batterie est morte. Du coup, j'ai continué à pied sur la fin de la deuxième moitié de la montée. Et pour le retour, par contre, ça descendait sur la majeure partie du trajet, donc j'ai pédalé comme un vélo normal, sauf que le VAE, le vélo à assistance électrique, il est assez lourd comme monture.
Bon.
Alors le mec en bullite à côté de moi, là, grincheux, trouve que c'est pas super lourd, mais bon, faut le monter, et moi j'ai pas, excusez-moi du détail, je n'ai pas les cuisses de grincheux.
Ah, surtout le bullite a une transmission qui a plus de souplesse que ton VAE.
Oui, bien sûr, ton vélo est mieux que le mien, hein, c'est non. Toujours ce qu'on dit quand on rencontre un autre cycliste, c'est toujours très sympa. Et donc... suite à ça... Ah non, mais...
Ok, oui, mais c'est pas ce que je voulais dire.
Merci. Suite à ça, je me suis demandé qu'est-ce qu'il valait mieux manger, finalement, quand on fait du vélo. Alors, les seuls conseils que j'ai trouvés concernent la course cycliste. C'est-à-dire le fait, les entraînements... Donc, c'est vraiment... On est sur le sport, quoi. C'est pas... Donc du coup, c'est des ratios calories, densité. Alors, il y en a certains qui évoquent quand même non pas la course, mais plutôt la rando. Donc du coup, c'est des ratios calories, poids, parce que on veut bien porter à bouffer, mais on veut que ça pèse pas trop lourd par rapport aux apports, etc. Donc c'est toujours en fonction de l'efficacité. Alors j'ai quand même pris quelques petites notes pour vous. Habituellement, sur un rythme de vie normal. On considère que les hommes sont censés ingérer 2700 calories par jour, tandis que les femmes un peu moins, 2100 calories. Dans les cyclistes amateurs, alors on parle plutôt de ceux qui font de la course, mais peu importe, ils ingèrent entre 3000 et 5000 kilocalories. Pardon, je dis calories, c'est kilocalories à chaque fois, mais vous aurez rectifié. Donc c'est vraiment, vraiment supérieur. Ce que j'ai noté qui pouvait nous servir au quotidien, c'est qu'il fallait faire attention à ses besoins physiologiques habituels, c'est-à-dire à l'équilibre alimentaire habituel. Il fallait également l'adapter à la dépense d'énergie. Typiquement, je parlais de montée, donc quand on a des grosses montées sur son trajet, il faut en tenir compte, mais également l'adapter à l'environnement, notamment la météo. Quand il fait chaud, quand il fait froid, il faut penser éventuellement à varier. Si vous faites des trajets quotidiens, comme on le fait pour aller au travail, peut-être le petit-déj, le faire varier un peu, plus de liquide, moins de liquide, enfin, selon la météo.
Moi je vois bien l'hiver, surtout, avec le froid, j'ai besoin de manger beaucoup plus.
Beaucoup plus sucré ou beaucoup plus gras?
Plus sucré plutôt, moi je mange trop sucré en général. Donc.
Et bien justement, t'es pas le seul, figure-toi, parce que dans toute la population française, en règle générale, on mange trop sucré et pas assez gras, en tout cas du bon gras, vous savez. Globalement, on mange vraiment trop sucré. Alors attendez, hop, je retrouve mes notes. Voilà, donc en général, on mange pas assez de gras. Qu'est-ce qu'on fait de pas terrible non plus? On n'a pas d'organisation diététique particulière, donc ça c'est des conseils plus adaptés à la course. Mais finalement, si vous faites du vélo de manière régulière, il faut aussi peut-être y penser, surtout si vous êtes en vacances et que vous arrêtez le vélo, ou au contraire, si vous faites plus de vélo pendant les vacances.
Mon dieu, arrêtez le vélo, quelle horreur!
Ok, ou alors si vous faites du vélo le matin et le soir, peut-être penser à prendre un goûter en rapport avec le vélo, mais que le midi, faire différemment, ou le dîner, manger différemment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Je vois.
Donc, adapter les ingestions de nourriture au fait qu'on va les dépenser à un certain moment qui est prévu si on en fait régulièrement. Également, ce qu'on fait des fois et qui est un peu débile, c'est un régime pour mincir, parce que ça casse complètement le corps au niveau équilibre diététique, à la rigueur, un régime brutal, hein, je veux dire, d'arrêter de manger tout d'un coup. Et ça vaut pour la course, mais pour nous aussi, si vous avez des longs trajets, manger trop tard durant l'effort, ou pareil pour s'hydrater trop tard, quand vous avez déjà faim ou déjà soif, c'est que vous êtes déjà en mode coup de pompe.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que donc... Vélocio, qui était l'un des pionniers de pourquoi tu te marres, qui était l'un des pionniers de la grande randonnée cycliste.
C'est une divinité cycliste.
Voilà, en fait. On parle généralement de Saint Vélocio. Vélocio avait comme principe, il disait, pour la randonnée, donc outre le fait qu'il fallait éviter l'alcool et le tabac durant la randonnée, déjà il avait compris que c'était pas très très bon à la santé. Il disait qu'il faut se couvrir avant d'avoir froid, se découvrir avant d'avoir chaud, boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Donc ça rejoint ce que tu nous dis.
Voilà, c'est une petite anticipation. Et quand on fait des trajets habituels, tout ça pour dire, le truc le plus utile que j'ai fait depuis que je vais le taf, donc depuis que je vais travailler à vélo, c'est d'installer une application météo fiable sur mon téléphone smartphone, de manière à la consulter le matin ou le soir à la veille pour savoir comment m'habiller, que prendre, éventuellement, est-ce que je prends un bidon d'eau parce que je vois qu'il va faire super chaud. Moi, ça m'arrive souvent, je fais un trajet assez court, je fais 5-6 km aller plus 5-6 km retour. Ça m'arrive assez souvent de boire en arrivant, en fait, pas tellement sur le trajet, mais en arrivant, parce que sinon je passe dans le coup de pompe juste en arrivant.
Je me permets, parce que je me dis qu'on a peut-être les copains qui nous écoutent, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, parce que vous n'étiez pas là, mais les copains étaient là lorsqu'on l'a fait. L'été dernier, on a fait le Vercors, et autant j'en avais chié, il faut bien l'avouer, dans la montée, durant les premiers jours, et j'avais réussi à bien améliorer mon rendement dans certaines montées, spécialement la montée du col de, je crois que c'était le col du Rousset, le col de Champs-Rousses, quelque chose comme ça. Justement en faisant des pauses fréquentes où je reprenais un coup de flotte et où je prenais un bout de banane séchée, un truc comme ça, pour reprendre du jus, et ça m'avait permis de monter beaucoup plus rapidement certaines côtes qui étaient pourtant très très raides.
Ouais. Donc, alors pour le coup là, je suis tombé sur un conseil un petit peu contradictoire avec ce que tu dis, mais sur la partie reprendre Après, c'était toi dans un contexte d'effort particulier, mais là, c'est en règle générale, vaut mieux faire des repas un peu espacés, avec éventuellement un goûter, mais que manger tout le temps un petit truc.
Le problème, c'est que manger, ça déclenche la digestion, et que le phénomène de digestion pompe aussi de l'énergie. Donc ça peut aller en contradiction, ça peut te casser dans ton effort.
Ouais, et voilà, et dans le conseil que j'ai, je l'ai ouvert sur mon ordinateur que j'ai sous le nez, du coup, il parle... d'une espèce de purification des graisses sanguines au cours de la digestion, c'est-à-dire que au lieu de manger tout le temps un peu en continu, finalement, d'avoir 2-3 heures entre chaque repas, ça permet qu'on puisse dans la graisse de réserve, pour ceux qui souhaitent mincir ce genre de truc. Voilà.
Concrètement, si on a des réserves et qu'on veut les utiliser à vélo, il faut manger un tout petit peu tout le temps, c'est ce que tu veux dire ?
Non, c'est l'inverse.
Ah d'accord.
Pour s'habituer, et également, au lieu... Enfin, dans ton quotidien, si c'est le conseil qui est donné par, c'est quoi, Nutricycle.
Je le bien nommé.
Nutricycle.com. En gros, il vaut mieux se poser, manger un repas assez équilibré, plutôt que fractionner ses repas. C'est ce qu'il propose. Parce que parce qu'au bout de 2-3 heures, l'organisme commence à puiser dans les réserves. Mais ils ajoutent, c'est pas que le côté maigrir, ils ajoutent que c'est aussi bien pour la gestion des fins de parcours, du genre, le ravito est passé, tu peux pas manger pour raison XY. C'est bien aussi que de savoir gérer ça et de pas tomber dans « Oula, j'ai pas mangé depuis 30 minutes, vite, vite, vite !» Donc ça, c'est intéressant, je pense, comme conseil. Et la dernière chose que j'avais notée, que je pensais vous dire, deux dernières choses. L'AFSA, donc l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, recommande, alors bon, là c'est vraiment au niveau français national, de manger 65% de glucides, ça comprend les féculents, 15% de protéines et 20% de lipides dans son alimentation. Donc les glucides, on en mange trop, notamment des glucides, comment dirais-je, index glycémique élevé, c'est-à-dire le pain très blanc ou le sucre.
Les sucres qu'on disait lents avant, mais qui aujourd'hui ne le sont plus tellement du fait du traitement, c'est ce que tu veux dire?
Voilà, c'est ça, que les filières agroalimentaires font que quand tu achètes du pain de mie blanc, c'est presque que du sucre rapide et pas tellement du féculent, pour caricaturer un peu.
Sachant que le fait d'avoir des sucres qui sont de plus en plus rapides vont de pair avec l'augmentation du taux de gluten dans le pain, et donc sachant que tu es en face de quelqu'un qui est intolérant au gluten, c'est quelque chose que
tu
je connais bien.
Tu es touché par le sujet. Alors, rapidement, pour un petit ordre d'idée, les protéines, vous pouvez faire un calcul du genre 1,1 g par kilo de votre corps. Ça, c'est votre dose journalière. Donc, si vous faites 70 kilos, par exemple, ce serait 77 g de protéines par jour. C'est pas énorme, vous voyez, c'est moins qu'un steak de 100 g.
Effectivement.
Si on considère qu'un steak de 100 g est 100% de protéines, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, finalement, peut-être qu'on en mange un peu trop. Les glucides, j'ai parlé d'index glycémique. Donc, l'index glycémique, c'est ce qui... quand un aliment a un IG, index glycémique élevé, c'est qu'il fait monter rapidement le sucre dans le sang. Donc, ceux qui ont des index glycémiques élevés, c'est par exemple le pain de mie blanc, ou les pommes de terre au four, ou le sucre blanc. Ceux qui ont des index glycémiques moyens, donc déjà un peu moindres, ça va être des raisins secs, de la bière, de l'ananas, de la polenta. Ceux qui ont des index glycémiques bas, donc qui là sont recommandés pour une meilleure alimentation. Ça va être du riz complet, des pâtes complètes, mais aussi des carottes cuites, des patates douces cuites, ou du miel et du fructose, contrairement au glucose. Donc quand vous avez des confitures, par exemple, je vais citer une marque, je sais pas si c'est bien ou pas bien.
Bof, on s'en fiche.
Il y a les confipotes, vous verrez que c'est des confitures, il y a marqué c'est au fructose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ceux qui font des marques de compotes comme Andros, qui font aussi des confitures au fructose, au sucre de fruits en fait.
C'est parce qu'en fait, le glucose, c'est des molécules qui sont associées en chaînettes. Et plus le sucre est lent, plus les chaînettes sont longues et donc demandent au corps d'être cassées et rentrent progressivement dans le sang. D'accord.
C'est ça. Et au niveau des lipides, alors il y a plein de sortes de lipides, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je peux juste vous signaler, et les publicitaires l'ont bien assimilé, qu'on a globalement, au niveau national français, une déficience en oméga 3. Donc l'oméga 3, ça se trouve dans l'huile de noix, l'huile de colza et dans les noix aussi.
C'est pas ce qu'on trouve dans les poissons aussi ?
Également, mais voilà.
Les poissons gras tels que le saumon, oui.
Voilà, là je parlais vraiment de lipides. Les poissons, ça t'apporte aussi de la protéine, donc c'est à classer dans les deux. Donc ma petite conclusion, c'est de dire qu'un bon ravito, puisqu'on parlait de vélo, un bon ravito, il doit être digeste. Ça peut être assez pratique. Attendez, j'ai une citation que je voulais absolument caler. Il faut que je la retrouve. Et c'est sur le sujet.
Ah. En fait, sachant que certains cyclistes se disent des riders, au final, il faut que le ravito d'un rider soit digeste.
Attends.
J'adore Grincheux qui me fait une tête bizarre parce qu'il a pas saisi le jeu de mots. C'est pas grave, tu réécouteras le podcast, tu comprendras.
J'ai bien choqué.
Voilà. Attention,
je suis atterré, c'est tout.
J'ai ma citation. Attention, prudence. Par définition, le fruit sec est un concentré de fibres. C'était pour la partie digeste. Il doit être propre, c'est-à-dire notamment votre gourde, votre bidon, doit être propre, sinon vous risquez plus d'être malade et d'avoir la diarrhée si vous ne nettoyez pas bien votre bidon. Pratique, bah, parce que si vous voulez le sortir en plein effort, bon, c'est rarement mon cas, je m'arrête, hein, mais bon, assez pratique quand même à déballer. Goûteux, parce que c'est toujours mieux pour vous. Adéquate au niveau de ce qui vous apporte en calories. Stable, c'est-à-dire qu'il se conserve bien, hein, on comprend bien que les trucs chocolatés l'été, c'est un peu compliqué. Efficace, qui vous apporte de l'énergie. Alors, moi, j'ai pris comme exemple ce que personnellement j'aimais bien, c'est des fruits séchés, comme la pomme séchée, la mangue séchée, des noix ou des amandes. Des noix de cajou et des M&M's, parce que c'est un combo chocolat-sucre-cahuète, donc je trouve que c'est acceptable, et ça ne fond pas trop. Donc.
Et surtout, il n'y a pas de gluten.
Voilà. Donc voilà, du coup, on me rionnait puisque j'ai fait le déroulé, et je crois que là, c'est toi, Proc, qui va nous...
Oui, je vais redémarrer, je vais reprendre la parole, et moi, je vais vous parler donc du CLPCF.
Mais qu'est-ce donc que le CLPCF ?
Alors, le CLPCF, non, il ne s'agit pas de la fusion du Crédit Lyonnais et du Parti Communiste Français, ce qui aurait tendance à être un peu bizarre, mais il s'agit d'un dispositif de voirie qui est destiné à changer la vie des cyclistes. Ta-ta-ta ! Il s'agit du céder le passage cycliste au feu. En effet, le 12 janvier 2012, le gouvernement a publié un arrêté modifiant les règles de circulation relatives aux bicyclettes, en leur autorisant à traverser un feu rouge à vélo sous certaines conditions que je vais vous lister plus loin. Je fais un petit disclaimer. Vous noterez que je n'ai pas dit « griller un feu rouge », car cette notion présuppose de se mettre en infraction. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas les automobilistes interrogés par les pseudo-journalistes de certains médias qui ont leur mot à dire là-dessus. Car nous allons voir qu'au final, cela ne change rien pour eux, ils restent bloqués tout pareil dans le trafic. Alors, le CLPCF, comment ?
Un peu Parti Communiste Français, le PCF ?
Voilà, c'est ça. Fusion du Crédit Lyonnais du Parti Communiste Français. Non mais c'est... Vous deux, vous le savez déjà, et les auditeurs l'apprendront bien assez tôt. Donc, je suis administrateur de l'association La Ville à Vélo. Oui, la même association dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, on en vient souvent à parler des dispositifs de voirie, et on parle souvent des CLPCF. Et c'est le seul moyen mnémotechnique que j'ai trouvé pour pouvoir me souvenir de l'acronyme. Avant, on parlait de tourne à droite ou de va tout droit, ce qui était beaucoup plus simple. Et puis, en fait, la terminologie a été modifiée et c'est devenu donc les CLPCF. Et pendant un bon moment, on a galéré pour dans les discussions pour pouvoir retrouver l'acronyme exact.
Mais l'acronyme a changé justement parce que le tourne à droite avait tendance à laisser supposer qu'on grillait le feu. Et...
Voilà, ça sous-entendait que effectivement c'était une démarche, une manœuvre dangereuse et illégale. Alors que là, céder le passage cycliste au feu, ça sous-entend qu'en fait on transforme le feu rouge en céder le passage et c'est ni plus ni moins que ça.
Et en plus, on ne prend pas la priorité.
Donc, les spécialistes de la circulation routière ont noté que selon la configuration des carrefours, certaines trajectoires de cyclistes ne croisaient ni se confondaient avec aucune trajectoire automobile. Si on part du principe qu'un feu vert ne sert qu'à réglementer la circulation sur un carrefour en permettant à chaque utilisateur de la route de la traverser alternativement et ce, tout en évitant les collisions, il est alors inutile d'arrêter les vélos en prenant certaines trajectoires vu qu'ils n'empêchent aucun véhicule motorisé de passer et risquent encore moins de rentrer en collision avec. Et là, Mogor hoche la tête devant ce que je viens de dire, ce qui est totalement...
Non, je hoche la tête parce que je n'avais aucunement connaissance de ça, en fait. Donc, je découvre, voilà.
D'accord, ok.
Je suis impressionné par cette réflexion.
Moi, j'avais surtout peur de dire quelque chose de complètement indigeste et je vais essayer de préciser un petit peu. Mais oui, tu voulais dire, Grincheux ?
Qu'à Lyon, peu de feux en étaient équipés pour l'instant, mais ça arrive de plus en plus.
Je vais y venir. Donc, pour essayer de rendre un petit peu plus clair ce que je viens de dire, un exemple. Vous roulez à vélo sur la bande cyclable d'une rue avec une chaussée bidirectionnelle, une route à double sens, voilà. Elle croise perpendiculaire une autre rue bidirectionnelle, elle aussi équipée d'une bande cyclable. Le carrefour est équipé de feux. Si vous tournez à droite, vous ne croisez, donc d'un point de vue technique, aucune trajectoire d'automobile, même celle allant dans le même sens que vous. Puisque vous allez aller dans le même sens, vous serez juste un petit peu à droite d'elle. Typiquement, ce carrefour est adéquat, tout à fait fait pour voir l'installation d'un CLPCF. Notez que j'ai mentionné que les deux rues avaient des bandes cyclables, vous comprendrez pourquoi, je vais y revenir. Néanmoins, comme je vous le disais en introduction, cette pratique n'est valide que sous certaines conditions. Le passage n'est autorisé que si un panneau CLPCF est apposé sur le signal tricolore concerné. Si aucun panneau n'est présent, le feu reste obligatoire pour les cyclistes et tout grillage de feu, oui, cette fois-ci je le dis, est puni par une contravention de 90 euros. Et là, au revoir la Selle Brooks. Ensuite, cette autorisation n'est valable que pour une seule direction précise. Le panneau vous autorise soit à aller tout droit, soit à tourner à droite. Au passage, c'est pour cela que le dispositif était surnommé initialement, donc tourne à droite ou va tout droit. Et on disait des TAD ou des VTD, mais voilà. Vous ne trouverez jamais un carrefour où les deux sont autorisés, car si par définition vous pouvez aller à droite, en allant tout droit, vous allez croiser la trajectoire des voitures qui se rendent à droite. Ensuite, vous ne trouverez jamais de tourne à gauche. En effet, la circulation se faisant par convention sur le côté droit de la chaussée dans nos contrées, soit vous croiseriez la trajectoire des véhicules arrivant de face sur une route bidirectionnelle, soit vous couperiez la trajectoire des voitures qui arriveraient derrière vous sur une route à sens unique. Le panneau ne concerne qu'une voie précise. Ce n'est pas parce qu'un carrefour est pourvu d'un CLPCF sur l'une des voies d'entrée du carrefour qu'il s'applique sur tout le carrefour. Ce n'est pas la peine de sortir l'argumentaire de maternelle. Alors oui, j'hésite un petit peu parce qu'en fait, je viens de demander à grincher une bière. Donc si vous vous faites attraper par un policier parce que vous êtes permis de griller un feu, il faut pas sortir l'argumentaire au policier. Mais oui, monsieur l'agent, regardez là-bas, la fille sur l'autre voie, celle qui est sur le fixie là, bah, elle le fait bien, là, c'est le PCF, alors c'est pas juste que vous m'arrêtiez. Non, si ce n'est pas parce que donc sur la voie d'en face ou sur une voie latérale il y a un CLPCF que on peut se permettre de tourner au CLPCF. Voilà.
Et il n'y a pas que les fixies qui grillent les feux.
Oui, il n'y a pas que les fixies qui grillent les feux. J'ai parlé du fixie, mais bon, c'était pour l'image. N'oubliez pas que ça peut paraître évident pour beaucoup de monde, spécialement pour ceux qui ont le permis. Le fait qu'un dispositif ne concerne qu'une voie et pas toutes les voies d'un carrefour. Mais rappelez-vous que tout le monde ne l'a pas à vélo.
Oui, notamment les cyclistes. Moi, j'ai vu des vélos en libre-service griller des feux pas plus tard que cet après-midi. Donc, j'aurais pas pris le fixie comme exemple.
Ensuite, il est bon de noter que le panneau n'autorise pas à s'engager les yeux fermés. Le panneau permet aux cyclistes de considérer...
Banzai !
Les yeux fermés. Banzai ! Le panneau permet aux cyclistes de considérer le feu comme un céder le passage, mais non comme un feu vert. L'arrêté précise que le cycliste bénéficiant d'un CLPCF n'est pas prioritaire, c'est un céder le passage. Si un vélo arrive dans l'autre sens, ou qu'une voiture serre la bande d'un peu trop près et que vous avez un accident avec l'un d'eux, c'est vous qui êtes fautif. Enfin, quoique ça peut se discuter si la voiture roule directement sur la bande cyclable. Mais encore que, bon, si vous risquez l'accident, c'est un petit peu idiot. Pour finir, n'oubliez pas que si vous suivez une jolie personne à vélo, vous n'avez aucune obligation de la doubler et vous pouvez rester derrière à profiter de la vue dans un grand accès de syndrome elbornien. Voilà.
Il va falloir apporter des traductions. Hein.
De quoi? Le syndrome elbornien? Oh, bah disons qu'en fait, c'est un syndrome qui se développe particulièrement avec le printemps. Ce n'est pas dû à l'allergie, mais c'est plutôt dû au raccourcissement des jupes, aux petits shorts, aux choses comme ça. Et c'est quand on a affaire à des personnes courtes vêtues et qu'on a tendance à un petit peu oublier où est-ce qu'on va pour admirer les cyclistes beaux et fringants ou les cyclistes belles et fringantes qui partagent la route avec nous. Pourquoi le CLPCF ? Je passe à ma deuxième partie. J'ai dit tout à l'heure que le CLPCF était destiné à changer la vie des cyclistes. Eh ben, je l'assume. Vous allez me dire, mais comment ? Bah, allez-y, dites-le !
Mais comment ?
Ah, cette question spontanée me fait plaisir. Mais en leur faisant gagner du temps, bien sûr. C'est sûr qu'un automobiliste qui passe 2 heures dans les bouchons, il n'est pas à une minute près. Il a sa clope, son thermos de café Starbucks bien chaud, et Rire et Chanson dans l'autoradio qui diffuse pour la 247e fois cette année le sketch Cohen et Bokassa d'Eli et... c'est Crignot, d'en parler
non, oui.
Bon, alors, on n'en parle pas. Bon, ok. Vous avez rien entendu. Il a sa clope, son thermos de café Starbucks bien chaud et Rire et Chanson dans l'autoradio qui diffuse pour la 302e fois cette année le sketch du lâcher de salope de Bigard. Il est peinard le gars, il a le temps le gars. Oui bon, j'ai un thermos Starbucks et une clope et ben je vous emmerde. C'est du militantisme monsieur, hein, voilà. Je veux juste prouver qu'on peut être à la fois un gros tox et un cycliste. Bon, hein, bref.
Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse.
Non, tout à fait. Bon, c'est bien, mais un cycliste, lui, c'est une personne qui est rapide, pressée, en somme, quelqu'un qui bosse, quoi. Hein. Pour lui, la minute de gagner au feu, c'est quoi, comment ça, réponse du berger à la bergère, pas du tout. Ça peut donc la personne, le cycliste qui gagne une minute au feu, et ben, ça peut représenter beaucoup pour lui, surtout pour les cyclistes qui font des trajets inférieurs à 5 km. Rappelons qu'un cycliste lambada roule à une vitesse moyenne allant de 15 à 25 km/h. Au-delà, les tests de dépistage sont obligatoires. Dites non à la drogue, dites non à l'EPO.
Lambada ?
Oui, lambada, oui.
C'est toi qui te drogue, là.
Oui, c'est vrai, ouais, bien sûr.
On va te dépister.
Moi, ce qui me fait marrer, c'est surtout le temps de réaction que tu as eu.
Non, non,
25 km/h.
Je n'osais pas t'interrompre.
Non, mais c'est une dédicace, le cycliste lambada. Fabien du recycleur se reconnaîtra. Donc, même pour les plus lents, les plus fragiles, il est difficile de rouler en dessous de 10 km/h, sinon l'équilibre du véhicule n'est plus assuré. Pour info, les piétons marchent couramment à 4-5 km/h, ça peut donner une petite échelle. Donc, pour un cycliste lambada, 5 km correspondent à un trajet de 12 à 20 minutes. Si vous avez 5 CLPCF sur votre trajet, à raison d'une minute par feu, vous pouvez gagner entre 25 et 50% du temps de trajet pour aller se foutre de la gueule de Marcel à la machine à café qui a mis 45 minutes pour venir dans sa grosse voiture qui lui coûte très cher. Les modalités d'installation du CLPCF. Je terminerai en vous parlant des modalités d'installation. Je reviendrai pas sur le type de carrefour concerné. Je pense que vous avez compris dans les grandes lignes où est-ce qu'on peut installer un CLPCF. Il y a, cela dit, un élément que je n'ai fait qu'effleurer, la présence des bandes cyclables. Alors, je préviens qu'ici, je ne parle que pour Lyon, qui est une ville relativement en retard par rapport à Bordeaux, Strasbourg ou même Paris en ce qui concerne les CLPCF. Les CLPCF, Crédit Lyonnais, Parti Communiste Français. Ah oui, je t'ai dit, c'est mon moyen mnémotechnique. Je reviens à ma question, donc les installations. Il faut savoir que pour les autorités de la grande Loukdouni, les autorités de Lyon, c'était un dispositif qui les laissait un petit peu dubitatifs. Oui, un élu du peuple, avocat ou médecin, est plus calé qu'un ingénieur des ponts et chaussées ou un urbaniste pour dire si c'est une bonne idée ou pas. La prochaine fois, je dirai à mon toubib que son diagnostic c'est de la merde et je prendrai la photo pour vous la montrer. Dans tous les cas, pour être sûr que les cyclistes ne risquent pas de se faire charcler par un automobiliste, tous les CLPCF de Lyon sont installés sur des carrefours équipés de bandes cyclables des deux côtés. Ainsi, on a décidé la communauté urbaine de Lyon, abrégée en courlis en prenant les deux premières lettres de chaque mot et pas seulement la première, sinon ça les vexe. J'espère en tout cas que toutes les villes ne sont pas aussi frileuses que la capitale des Gaules.
Curly.
Et...
Rien, c'est Courly, Curly.
Oui, non, en fait, ils ont décidé de la baptiser la Courly, parce que si tu prends que les premières lettres de communauté urbaine de Lyon...
Mais je crois que Courly, c'est aussi un petit oiseau. Je fais des recherches, je te dirai plus tard.
D'accord. Donc, j'espère que toutes les villes de France et de Navarre ne seront pas aussi frileuses que Lyon, et que vous pourrez voir fleurir ces sympathiques dispositifs dont tous les automobilistes sont jaloux. Voilà.
Eh bien, très bien. Je crois que c'est à moi maintenant.
Je crois aussi.
Le mec qui s'est endormi.
Pas du tout.
La prochaine fois, je vous parlerai d'autres dispositifs légaux. Et voilà.
Formidable.
Si vous entendez des ronflements, vous saurez que c'est grincheux.
Donc, à mon tour, donc je vais ce soir vous parler d'un grand problème, la sécurité de nos vélos. Donc quand on demande autour de nous le problème principal avec le vélo, le mot qui revient le plus souvent, c'est le vol.
un Mogor.
Non, ne grille pas les étapes. Alors c'est vrai que le vol de vélo est très problématique, mais à défaut d'avoir une solution absolue, je vais essayer de vous présenter quelques règles qui permettent de réduire considérablement les risques.
Ah, je ne me suis jamais fait voler de vélo.
Moi non plus.
Bon, ok, d'accord, j'ai rien dit.
Donc tout d'abord, ça va paraître idiot, mais attacher son vélo.
Je croise les doigts quand même et je l'attache.
Quel que soit le lieu où on se gare, même le local à vélo, du boulot, de l'immeuble, de la résidence, à partir du moment où c'est en accès multiple, il faut qu'il soit attaché parce que n'importe qui peut y accéder. Certains parano diraient même que il est bon de l'attacher même dans son garage. Ça peut se concevoir. Donc, un vélo pas attaché, à ce moment-là, c'est à la portée de tout le monde.
En fait, on a vu des copains qui se sont fait tirer des vélos dans leur propre local, dans leur propre garage fermé. Hein, donc,
voilà. C'est souvent plus facile d'ouvrir un box de garage qui se crochette avec une épingle à cheveux ou un coup de pied bien placé.
Je rentrerai pas dans les détails parce qu'en plus, c'est dur à expliquer à l'oral, mais il y a des portes de garage qui sont même très facilement forçables sans pour autant y aller en forçant la serrure.
Oui, voilà.
Là, tu commences à me faire stresser et je me dis que je vais l'attacher dans mon garage. Hein.
Il y en a certains qui préconisent effectivement d'installer un point fixe, un anneau de type abus en acier cémenté pour l'accrocher dans le garage. Oui. Ouais. Mais bon, le quartier où tu habites, c'est pas... ça va.
Après, voilà,
j'ai pas le vélo le plus cher du garage.
Non plus.
Donc voilà, certains recommandent d'accrocher le vélo même dans son propre garage. Après, bien sûr, un antivol. Il faut qu'il soit solide et dissuasif. Et oui, dissuasif, parce que la solidité intrinsèque ne suffit pas. Il faut que l'aspect qu'il paraisse bien solide pour dissuader le voleur et que le voleur ait envie de s'attaquer à l'antivol d'à côté plus facile.
J'ai une question. Si tu mets une batterie électrique reliée sur ton U, là, c'est dissuasif si le mec reste collé dessus.
C'est dissuasif, mais illégal.
Ah d'accord, pardon. Fait penser à la pub dans Robocop, le gars qui monte dans la voiture et qui se retrouve électrocuté. Enfin bon, bref, pardon, excuse-moi, j'arrête de t'interrompre.
Mais pour le choix de l'antivol, il faut commencer par exclure tous les antivols à câble et les chaînes de quincaillerie, donc tout ce que vous allez trouver dans les grandes surfaces de bricolage comme chaînes, c'est très décoratif. Ça fait très rebelle, mais c'est totalement inutile.
Là, je vais me permettre de soutenir ton discours. Donc, tout à l'heure, je taquine un petit peu en disant un Mogor, parce que Mogor a eu des soucis de U il n'y a pas longtemps. Oui.
Je sais pas, tu vas raconter mon histoire.
Non,
ou
pas du tout, pas du tout. Mais par contre, vous disiez tous les deux que vous n'êtes fait jamais voler aucun vélo. Moi, pour ma part, ça m'est arrivé. Et c'était à l'époque où je pensais que les câbles étaient suffisants. Donc, je vais amener de l'eau à ton moulin en disant que effectivement, un câble, ce n'est absolument pas suffisant. Je me suis fait voler l'un de mes premiers vélos comme ça. J'avais beau en avoir deux, il est parti en très peu de temps. Voilà, donc les câbles, vous oubliez. Écoutez ce que dit Grincheux, il a tout à fait raison.
Donc, les antivols que je recommande sont d'abord, tout particulièrement les U. Non, c'est pas pour ferrer les chevaux. Tout particulièrement les U, parce que c'est ce qui offre le plus de résistance.
En quoi consiste un U, Grincheux ?
Un U est une barre en acier cémentée, trempée, je sais pas quoi.
Cémentée, en l'occurrence, oui.
En général, cémentée. en forme de U. Je vais couper le micro de Mogor. Là.
Ça y est, elle craque.
On l'a perdu.
On l'a perdu.
Donc, c'était un seul morceau d'acier avec...
Ça y est, on a dépassé minuit. Mogor est perdu pour la cause.
Pourtant, on lui a pas donné d'alcool ce soir.
Ouais, c'est marrant, c'est la seule à pas avoir bu d'alcool, mais elle est...
Eh oh, c'est bon. J'ai ma réputation à tenir, arrêtez de tout dévoiler.
On devrait lui donner de l'alcool la prochaine fois, peut-être que ça changerait.
Ça m'abat un petit peu l'alcool, je deviens... Donc les U, c'est de l'acier cémenté, une barre, non mais je suis... Mm-hmm. Et
En forme de U, du coup.
Et donc comme c'est une seule pièce en acier très, très résistant, ça fait un ensemble très, très solide. Et souvent, le point de faiblesse des U vient plutôt du mécanisme et des serrures que de la partie U, en acier elle-même.
Donc l'autre type d'antivol qui est très recommandé actuellement, peut-être un peu moins sécurisé qu'un U, mais beaucoup plus pratique et donc qui a de très bonnes cotes actuellement, c'est les antivols de type articulé, comme les Abus Bordeaux ou enfin chaque marque a sa propre déclinaison.
On dirait un peu des mètres pliants de.
Voilà, des.
Qu'on trouve en bas des magasins de bricolage.
C'est ça, non, mais tout à fait, c'est le même principe.
Des mètres de charpentier.
Dans la terminologie, souvent les magazines, enfin les sites de vélos, etc., appellent ça d'ailleurs des U-pliants.
Ouais, ou des U-pliants. Mm-hmm. Donc là, on a des segments d'acier qui sont reliés par une articulation.
Un rivet,
lui-même très, très résistant. Et qui offre une résistance relativement proche de ce qu'on peut avoir avec un U, mais en plus avec la souplesse d'avoir quelque chose de pliant, donc qui permet de moduler la tâche du vélo.
Concrètement, en plus, ça permet d'englober plusieurs prises, parce que avec le cadre qu'on va attacher au point fixe, on va pouvoir prendre du roue.
J'y viens.
Voilà.
Parce que voilà.
Attendez, alors... non, il y a un truc qu'il faut que je dise, ce que j'ai découvert relativement récemment, c'est que dans les U pliants, ou je ne sais plus comment tu les appelles,
articulés,
il y a plusieurs tailles, et parfois la taille.
Ça compte.
Et bien sûr, c'est la fille de l'équipe qui dit ça.
Je m'étais challengée de le placer dans le... Non, sérieusement, j'en ai acheté un plus grand pour mon VAE qu'un cadre plus épais et ça m'a aidé. Voilà.
Oui, alors ça peut compter dans le bon et dans le mauvais sens aussi du terme. Parce que ça veut dire, ça, c'est d'un point de vue pratique, ça aide énormément parce que ça permet de pouvoir plus facilement attacher son vélo à un poteau ou attacher sur des poteaux qui sont parfois plus gros que ce qu'on voudrait. Mais par contre, au niveau des techniques de défraction, ça permet aussi d'avoir un plus grand bras de levier et de pouvoir avoir plus de jeu sur le U pour pouvoir le placer à un endroit qui sera plus favorable au voleur pour l'attaquer. Donc ça a aussi son retour.
Oui, mais et là vous allez pouvoir vous-même caser une petite citation. Parfois on peut l'attacher sur attacher son vélo sur des équipements faits pour, quand il y a des parkings à vélo, mais parfois on l'attache au mobilier urbain. Donc,
tout à fait.
Prends deux exemples, un panneau de stop, donc qui est un tube assez petit, ou un lampadaire.
Qui est beaucoup plus large et où c'est parfois très difficile de l'accrocher.
Et là c'est vraiment épais. Quoi.
Tout à fait, c'est pour ça que je te dis que ça a un intérêt, parce que si on est régulièrement amené à s'accrocher à du mobilier urbain, bah des fois, soit parce qu'il n'est pas accessible, parce que le panneau, il y a quelque chose qui gêne un trottoir, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se mettre correctement, ou parce que le poteau est un lampadaire assez épais, et bah avec un antivol classique, on ne va pas pouvoir faire le tour.
Alors, de par expérience, j'en parle, puisque moi je n'ai pas de U pliant, mais j'ai une chaîne cémentée. Alors, précision pour les auditeurs, qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas d'une chaîne de quincaillerie, comme disait Grincheux, je parle d'une chaîne spécifiquement faite pour le vélo, qui est une chaîne cémentée et très très épaisse.
C'est pas les scooters et les...
Ils les utilisent aussi,
et
tout à fait.
Et les motos, parfois, ont ce genre d'antivol.
Et exactement, c'est un antivol de roue. Donc, par expérience, je sais que lorsque la chaîne a une grande longueur, qu'on l'a attachée à quelque chose d'assez fin et qu'il y a pas mal de mousse sur la chaîne, en fait, entre guillemets, il faut pas hésiter à faire une boucle ou deux de plus sur le cadre ou sur le point fixe. C'est la solution pour régler le problème.
Voilà. Alors, chose qu'on ne peut pas faire avec un antivol articulé.
Ah, d'accord.
Parce que la longueur des segments fait qu'on va avoir beaucoup de mal à... Enfin, on va perdre énormément de longueur.
Oui, parce qu'au minimum, ça va faire un triangle, quoi.
Voilà.
D'accord, je vois.
Et donc, le dernier antivol qui soit valide, ce sont des grosses chaînes cémentées spécifiques de roues.
Ta-ta-ta-ta-ta, proc, à l'attaque.
Et encore, là, j'ai mis des réserves parce que moi, j'ai vu un collègue qui s'est fait voler son vélo en quelques minutes où le mec a pris enlevé la tige de selle et a utilisé la tige de selle comme levier pour faire sauter la chaîne.
Oui, mais donc, ça peut être fait également avec un U-pliant.
Non, parce que le U-pliant, tu vas pas pouvoir l'entortiller alors que...
D'accord. Donc, du coup, note aussi, c'est que il vaut mieux qu'on puisse pas enlever la selle.
Tout à fait. Après,
en dehors de faire voler la selle.
Voilà. Là, c'est le vol opportuniste d'une selle, d'une roue, etc. Mais pour l'instant, on va rester sur le vol du vélo complet. Donc, c'est pour ça que mon point suivant était attacher son vélo, c'est bien. Encore faut-il l'attacher correctement. Parce que. Un antivol, tout aussi costaud soit-il, s'il est mal positionné, il ne servira à rien. combien de vélos voit-on avec un U de très belle facture qui ne prend que la roue avant avec équipée d'une attache rapide. Donc là, oui, on va laisser la roue avant, mais en deux secondes, on défait l'attache rapide, on part avec le reste du vélo.
Et si on trouve un vélo qui est attaché à la roue arrière, on peut lui piquer la roue avant pour combler.
En plus.
Pour compléter.
En plus. Combien de vélos on voit attachés à des potelets ? Donc les poteaux qui font un mètre de haut pour éviter que les voitures montent sur le trottoir. Bon, bah, on prend le vélo, on le soulève de quelques centimètres et on dégage le vélo de son point fixe.
Bon.
Combien de vélos pas attachés à un point fixe, tout bêtement d'abord.
Il faut être honnête, il faut avouer que dans le milieu du vélo et entre copains, c'est très souvent une source de rigolade.
De moquerie. Mais donc les règles pour attacher correctement un vélo sont d'abord d'attacher une roue avec le cadre, avec un point fixe.
Les
trois ensemble.
C'est l'idéal. Et si c'était impossible parce que tu as un antivol trop petit, l'idéal c'est d'avoir un antivol de roue aussi.
Alors ça, après, je crois que tu en parlais. Attacher les deux roues ensemble ou un antivol de roue
Un antivol de cadre qui va bloquer la roue attachée avec le cadre. C'est à ça que
voilà,
Ah oui, c'est ça.
Au lieu d'avoir une attache rapide avec le levier, tu as des tiges avec une clé spéciale.
Donc l'antivol de cadre, c'est un antivol qui se fixe sur le cadre et qui se ferme dans la roue, donc qui fait que la roue à ce moment-là est bloquée avec le cadre. Et donc on ne peut pas l'enlever sans outil, voire même sans découper l'antivol. Donc pour attacher correctement son vélo, donc au grand minimum le cadre sur un point fixe. C'est grand minimum à condition qu'on ait des roues qu'on puisse pas enlever comme ça simplement, donc des roues boulonnées ou avec des écrous antivol. Mieux c'est d'avoir une roue avec le cadre avec un point fixe, voire un antivol par roue pour solidariser chacune des roues avec le cadre et un point fixe. Et bien sûr
j'ai testé, c'est en général ce genre d'attache que je fais.
Et pareil, quand on se met sur un poteau, s'assurer que le poteau n'est pas simplement enfiché dans le sol et qu'on peut pas se contenter de soulever le poteau pour enlever le point fixe.
Alors là, tu soulèves un point important, si je puis dire. Et parce que je fais souvent ça et les gens me regardent bizarrement, c'est-à-dire que j'ai mon vélo à une main, je m'approche d'un panneau, d'un poteau et je le secoue comme ça. Typiquement, tout à l'heure, j'ai été faire une course. Devant le magasin, il y avait une rampe d'accès handicapée avec une longue barrière. Je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir peut-être fixer mon vélo là-dessus. J'ai touché la barrière, je l'ai un peu secouée. Elle me paraissait très instable. J'ai préféré un autre point fixe. Et les gens me regardaient bizarrement.
C'est intéressant parce que, donc, en ce moment, je suis en train de lire le livre d'Eben Weiss, plus connu dans le milieu sous le nom de Bike Snob, qui tient un blog sur le vélo à New York.
D'accord.
Et donc, il a écrit les chronique d'un fou du vélo, et dedans il parle justement de pièges pièges à cons en fait, hein, de barrières qui sont en fait déboulonnées et sur lesquelles les gens accrochent leur vélo, et donc en fait le petit malin qui a déboulonné la barrière vient ensuite, soulève la barrière, récupère le vélo et part avec. Donc oui, effectivement, c'est très important de vérifier que le point fixe est réellement fixe.
Donc c'est pas un vol opportuniste là, c'est vraiment préparé,
oui.
On va dire.
Oh oui, c'est prémédité, oui.
Mais donc voilà, bien s'assurer que là où on attache son vélo, ce soit bien solide. Alors, donc ça c'est sur ce que l'on peut faire directement. Après, une chose autre, faire en sorte que le voleur potentiel soit plus intéressé par le vélo d'à côté que par le nôtre.
Mais là, donc, c'est difficile de choisir, hein.
Ouais, surtout quand t'as un surly karaté monkey magnifique.
Je suis sorti cette semaine déjà, en soirée dans un quartier
déjà ne
fréquenté
pas...
et soit tous les attaches les parkings à vélo étaient pleins et là c'est où pas... j'ai trouvé de la place et ben les vélos d'à côté ils étaient à moitié démontés. Je sais pas si c'était les propriétaires qui avaient emporté
oui,
leur selle ou si c'était du vol.
Bien sûr,
quoi.
Mais ce que je veux dire par là, c'est soit que le vélo lui-même soit plus attrayant, soit que il est plus facile de voler celui d'à côté que de voler le tien.
En fait,
il y a tous les voleurs opportunistes qui ne vont pas chercher un modèle en particulier, qui vont chercher un vélo à voler.
Donc c'est le côté donc, partisan du moindre effort.
Tout à fait.
Et peut-être remarquer, c'est-à-dire que si ton vélo se fait remarquer,
alors,
on va le voir.
Oui, alors après on va dire qu'il va y avoir un seuil au vélo remarqué, typiquement pour mon cas. On prend un vélo très exceptionnel, où il n'y en a pas énormément sur le marché, et encore moins sur le marché de l'occasion. Si je me fais voler mon Bullitt... pour leur fourguer, c'est mission impossible.
Mais je crois d'ailleurs que le seul bullet dont j'ai entendu parler du vol, il a été retrouvé.
Tout à fait. 5 mois après, certes, mais il a été retrouvé. Maquillé, certes, mais retrouvé, mais rapidement identifié quand même. On parle bien entendu du même, puisque c'est celui de Jean-Bas.
C'est ça.
Mais voilà, c'est des vélos qui sont tellement spécifiques que il y en a très peu qui passent sur les petites annonces. Donc, partant de là, ceux qui passent sont regardés sous toute leur couture. Et s'il y a un risque qu'ils aient été volés, on va retrouver rapidement le propriétaire. Donc, bon, ça, c'est un cas très particulier du vélo, très exceptionnel. On n'est pas à l'abri non plus d'une commande, mais c'est une commande qui va pas être en France, parce que si le mec va rouler dans n'importe quelle grande ville française...
Tu peux préciser ce que tu veux dire par commande ?
Un mec qui veut un vélo très spécifique et qui va commander à un voleur de lui en piquer un.
Alors, sur des vélos, tu commences à parler un peu de grand banditisme.
Oui, c'est du grand banditisme.
Ah oui, mais ça existe.
Sur des vélos... ça existe peut-être beaucoup moins. Moi, j'ai connu ça en moto. Ouais, sur des vélos, vu la valeur, sur la valeur d'un vélo, ça existe sûrement beaucoup moins. Mais c'est quelque chose qui peut exister. Parce que voilà, le fait de commanditer ce genre de truc, l'investissement fait que ça vaut peut-être pas le coup par rapport au coût d'achat neuf d'un vélo.
Tu te méfieras. Il y a un mec qui m'a proposé pour 300 boules de me fournir un bullet. Non,
je peux t'en fournir un moins cher, mais j'aurai des problèmes autres d'argent après, je pense, pour payer mon loyer par exemple, toute seule.
Non, parce qu'il est assuré, mais oui, pour payer ton loyer toute seule, oui. Moi, j'aurai toujours un bullet parce que comme il est assuré, mon assurance me le remboursera.
Bon, mais
soit parce que le vélo d'à côté sera plus attrayant, soit surtout parce que il va avoir un antivol beaucoup plus facilement fracturable.
Donc quelque part, c'est vrai qu'on pleure souvent en voyant des vélos magnifiques de très grand prix, mais attachés avec des câbles. Mais quelque part, au final, ça nous facilite la vie, quoi.
Voilà. Malheureusement, on peut pas être là pour tout le monde. Si le mec n'a pas pris les précautions de sécuriser son vélo,
c'est la sélection naturelle quelque part.
Dans un sens, oui.
C'est vraiment, moi je suis mal à l'aise avec ce que vous dites, franchement.
C'est cynique, c'est vrai, mais c'est une réalité.
Non, mais
c'est
cynique de dire pour garer ton vélo, faut bien l'attacher. Par contre, s'il te plaît, attache-le avec des vélos super bien.
Pas forcément super bien, mais qui présentent mieux, parce que tu auras beau avoir un vélo...
Ou alors essaye de diminuer la valeur de ton vélo en le passant en papier de verre, en enlevant la belle peinture.
Il y en a certains qui ils prennent leur vélo à peine acheté.
Amochissent leur vélo.
Ouais, oui. Ils mettent des stickers de partout, par exemple.
J'en avais discuté avec des gens assez investis dans la communauté cycliste à Paris, en l'occurrence. Et ils m'avaient déconseillé de faire ça en me disant, écoute, vaut mieux investir dans des bons antivols que d'amocher ton vélo, que de le rendre plus moche. Déjà parce que toi, t'as pas envie de rouler sur ton vélo moche, quoi. T'as envie de rouler sur ton vrai vélo. Bah, et parce que, à l'échelle d'une vie, alors ça concerne peut-être pas tout le monde, mais à l'échelle d'une vie, tu as de quoi te repayer un vélo. Une voiture, c'est déjà beaucoup plus onéreux, mais bon, si vraiment tu te le fais voler, t'as de quoi te repayer.
Non, mais c'est un point de vue que je partage. Un vélo... Même si, oui, on pourra peut-être pas se racheter tous les ans son vélo de ses rêves, certainement pas se racheter le vélo de ses rêves tous les ans, à ce moment-là, il faut peut-être prendre d'autres précautions. Moi, typiquement, quand j'ai acheté mon Bullitt, j'ai changé d'assurance pour que mon assurance habitation me protège correctement le vélo en cas de vol. Aujourd'hui, j'ai des antivols, je ne suis pas... J'ai toujours un petit moment d'angoisse quand je vais me garer dans des coins que je connais pas bien, qui me semblent pas super clean. Maintenant, je m'empêche pas de dormir pour autant. Je sais que si jamais demain je me fais fracturer le box et qu'on me pique le vélo, ça va m'emmerder énormément. Je vais râler, mais en même temps, j'ai pris des précautions avec une assurance qui me fera en sorte que je vais être remboursé suffisamment pour pouvoir me repayer un vélo dans les jours ou dans les semaines qui vont venir.
Pour apporter de l'eau à ton moulin, pour ma part, c'est les renseignements sont déjà pris pour que lorsque le surly sera prêt, il soit également couvert par mon assurance.
Voilà. Pour conclure, je ne sais plus ce que je voulais dire parce qu'on a un peu divagué.
Vagué.
Donc pour conclure, attacher, enfin sécuriser un vélo dans l'absolu, ça n'existe pas parce que on pourra toujours fracturer un antivol. Les moyens de fracturer un antivol, aussi cher soit-il, aussi résistant soit-il, existent. Et même si nous, Pékin Lambda, le jour où on a besoin de, on casse la clé dans notre antivol, le casser va nous prendre.
Le regard que tu viens de jeter sur Mogor juste à l'instant, il est éloquent.
Bon, ok, alors
je. Donc, j'attends que tu finisses ta phrase avant de raconter mon histoire ou tu préfères que je la raconte avant ta conclusion ? Parce que je sens que je suis obligé en fait.
Ah ouais, tu vas être obligé, ouais.
Ok, alors juste avant que tu reprennes ta conclusion, je suis désolé de
m'interpréter. Non, vas-y.
Ainsi, c'est quoi cette courbe ? Ça sature complètement quand je parle ?
Vas-y.
Bon, donc l'histoire est assez simple. J'ai garé mon vélo, j'ai parqué mon vélo dans un endroit assez passant. Du coup, je l'ai attaché avec deux antivols. Un qui attachait la roue avant, le cadre, à un point fixe. C'était un parking à vélo, donc c'était fait pour. J'avais quand même vérifié la solidité du petit... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs en forme de la lettre phi.
De l'épingle.
La lettre phi de l'alphabet grec. Bon, personne
oui.
connaît.
Si, si. Une épingle...
C'est pas la lettre que je visualise pas, c'est le dispositif. Mais tu me montreras ça à l'occasion. D'accord, je vois.
Donc, j'avais attaché la roue avant, le cadre, au point fixe qui était la lettre phi. Et j'avais solidarisé la roue arrière et le cadre avec un second antivol. À l'arrière, il y avait un U. À l'avant, j'avais mon mètre pliant. Mon U pliant. J'étais avec des gens pour la première partie de soirée. J'ai souhaité déplacer mon vélo entre la première et la seconde partie de la soirée. Je suis arrivé, j'ai mis la clé dans le U, j'ai tourné pour l'ouvrir, j'ai retiré la clé. En fait, j'ai retiré que la moitié de la clé, c'est-à-dire que j'ai cassé la clé dans le U. Du coup, j'étais bien emmerdé parce que je pouvais pas bouger mon vélo vu que la roue arrière et le cadre étaient solidarisés. Je pouvais encore le détacher de l'épingle, du fil là, mais je ne pouvais pas le faire rouler finalement, sauf sur la roue avant. Bref. Donc du coup, comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé que j'ai utilisé les transports en commun pour rentrer. Bon, ça s'est terminé que j'ai rejoint les personnes que je voulais rejoindre qui se sont moquées de moi. J'ai utilisé les transports en commun pour rentrer et le vélo a été récupéré en voiture, hein, du coup. En voiture, mis sur la voiture parce que c'était pas vraiment faisable de rouler avec quoi. Et donc partant de là, il y avait plusieurs solutions. Les deux auxquelles on a pensé, c'était arriver à extraire la clé, parce que j'avais une clé de secours bien sûr qui était vendue avec mon U, ou détruire le U, voilà, ce qui était pas marrant dans les deux cas et pas facile dans les deux cas. Voilà, je ne dirais pas quelle solution nous avons retenue.
Non.
Car ce n'est pas le sujet ici.
C'est très très bien.
Et donc ta conclusion sur les antivols et le vol.
En fait, il y a un point que je voulais rappeler juste avant. Donc, en plus d'avoir des vélos autour qui paraissent plus attrayants, ou en tout cas plus faciles à voler, l'idée d'aller se garer dans une ruelle sombre, isolée, est une très très mauvaise idée, parce que votre vélo sera moins visible, mais par contre le voleur qui va vouloir s'attaquer à votre vélo sera moins visible lui aussi. Donc il vaut mieux se mettre sur des grandes aires de parking vélo, devant une entrée de centre commercial, au vu et au su de tout le monde, où on peut se dire que quelqu'un... osera moins attaquer des antivols un endroit de fort passage, même si malheureusement l'expérience prouve que
les gens s'en foutent.
Les gens s'en foutent, voilà. Mais déjà, si on n'est pas dans un coin, dans une ruelle sombre, isolée, c'est plus visible, c'est un peu plus dissuasif pour le voleur de venir tout court s'intéresser au vélo. Donc en conclusion de tout ça, il n'y a pas de solution miracle. Quelqu'un qui va vouloir voler, casser un antivol, pourra le casser. Les solutions pour casser des antivols, il y en a des milliers, plus ou moins discrètes, plus ou moins efficaces selon la nature de l'antivol.
Qui demande plus ou moins de moyens.
Mais bon, il y a des solutions très simples pour pas grand chose et qui sont très efficaces même sur des trucs solides.
Au final, en fait, un antivol, tout ce que ça nous donne, c'est du temps avant le vol, en fait.
Tout à fait. C'est un retardateur de vol, plus ou moins efficace selon le
câble 2 secondes, chaîne 10 secondes, U 5 minutes, etc.
Oui, voilà. Et
après, je suis gentil avec le U.
Ça va dépendre de la nature du U également, parce que moi,
il y a différentes qualités, voilà, c'est ce que tu disais.
J'ai plusieurs U, j'ai un U de moto qui doit avoir la section du U
doit faire plus d'un centimètre de diamètre. Bon, oui, on va pouvoir la voir, mais bah, il faut prendre un peu plus de temps et un peu plus de moyens.
Du U Michelin en acier doux jusqu'au fameux Fagata Baudet new-yorkais, il y a un monde, effectivement.
Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. Faut juste, c'est des règles pour ne pas laisser envie aux voleurs opportunistes de partir avec notre vélo comme ça. Moi, on m'avait appris ça comme règle de sécurité. Aucun coffre-fort est inviolable. Il faut juste y mettre les moyens. Donc, il faut que le coffre-fort soit en regard des moyens qu'on cherche à y la valeur des données qui sont à protéger. Donc c'est la même chose pour le U et le vélo. Et pour le vélo, au-delà de la valeur financière, la valeur sentimentale qu'on peut y avoir aussi, entre tout ce qu'on a mis dessus. Et puis après, si on arrive sur des sommes qui sont trop importantes, il y a des assurances. Mais je pense qu'on fera un dossier complet sur le sujet plus tard. Et voilà.
Bon,
je pense qu'il est temps de terminer cet épisode.
Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc, merci pour ton dossier sur les antivols, grincheux. Merci pour ce qui est de l'alimentation, Mogor. On essaiera de mettre ça en pratique.
On en reparlera, je pense.
Autour d'une bonne bouffe.
Voilà, autour d'une bonne bouffe. Et puis, on en reparlera après la prochaine rando qu'on va faire. Voilà, merci de m'avoir accueilli. Et puis, à une prochaine.
Eh bien, à
salut
bientôt.
Salut,
et à un prochain podcast.
Salut.
N'oubliez
salut
pas.